Alors, je suis Quentin de Fédéra, Fédération étudiante de Lorraine. Il est question depuis tout à l'heure de l'ambivalence entre enseignement et recherche. Actuellement, donc, la recherche est uniquement évaluée. Est-ce qu'elle n'a pas tendance justement à prendre le pas sur l'enseignement? Tout à l'heure, M. Blanchard évoquait l'obligation de résultat des enseignants-chercheurs sur leur recherche. Est-ce que cette obligation de résultat devrait être plus portée sur une vision qualitative de la recherche? Actuellement, comme aussi l'évoquait M. Taddeï, on a une profusion des publications qui augmente chaque année. Est-ce qu'une régulation justement de ces publications pourrait-elle être envisagée, qui serait par naissance aussi contraire au sacro-saint principe d'indépendance des professeurs de l'université?
Alors, en quelques mots, de l'espoir. Qui commence? Vas-y, vas-y.
Non, non, j'ai une précision. Donc, vous réclamez qu'il y ait une...
Faudrait-il réguler la recherche ou pas?
Non. Non, bah, ma réponse est claire, non.
Donc, je veux dire, par exemple, il y a des comités d'éthique qui contribuent à accompagner une partie de la recherche. Donc, c'est sûr que c'est pas non plus juste n'importe quoi. Est-ce que vous posez une question, par exemple, sur... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une surenchère de publications. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'on est un certain nombre à le dire et à le vivre et même à en souffrir. Une des questions, c'est par exemple, est-ce que plutôt que d'évaluer simplement le nombre de publications, on ne pourrait pas évaluer la qualité de chacune des publications? Et aujourd'hui, on a trop souvent tendance à utiliser des impact facteurs, des choses qui se calculent automatiquement, plutôt qu'à prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est très difficile. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Une autre réflexion à avoir sur la notion de publication, c'est que la notion de publication, elle est née avec l'imprimerie. D'accord ? Et ça veut dire quoi ? Je donne juste deux exemples. Ça veut dire que quand on soumet un article pour publication, il n'existe pas tant qu'il n'est pas accepté. Et le jour où il est accepté, on n'a plus le droit d'y changer une virgule. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui, dans le monde de la presse, ont beaucoup de sens. Parce que ça coûtait tellement cher d'imprimer que... etc. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on pourrait très bien avoir des publications qui, comme Wikipédia, sont mises à jour en permanence. Donc on peut inventer de nouveaux modes. Et d'ailleurs, par exemple, les informaticiens, quand ils publient leur code, ils publient sur des plateformes, je ne sais pas si vous connaissez GitHub, mais GitHub, c'est une plateforme dans laquelle on publie son code et on peut le partager et d'autres peuvent le récupérer et l'améliorer et éventuellement en faire autre chose. Et donc il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des branchements, des forks en anglais, qui créent plusieurs variantes. Rien ne nous empêcherait de faire la même chose pour les publications. On a des données qui arrivent en temps réel. Alors, il y a une publication qui a analysé, par définition, les données du passé. Éventuellement, les données de l'instant, mais c'est quasiment impossible à faire. Et en tout cas, les données du futur, c'est encore plus impossible. Donc, est-ce qu'on peut mettre à jour les publications parce qu'il y a des nouvelles données qui viennent le faire? Donc, on voit bien qu'il faut repenser l'ensemble de l'écosystème de connaissances qui inclut les fameuses publications qui sont si importantes dans la carrière des enseignants-chercheurs. Et il faut voir, peut-être que si vous avez apporté de nouvelles données qui confortent une analyse, aujourd'hui, ça ne vaut rien dans le système de publication, pratiquement. Donc on voit bien que, alors qu'on en a besoin, typiquement sur le climat et sur tout un tas de sujets, on a besoin d'évaluations qui sont dynamiques. Donc on a besoin, je pense, de réinventer l'ensemble de l'écosystème, dont celui des publications.
Sur l'histoire... Non, alors on est tous d'accord qu'il y a une demande de publication qui devient absurde, hein, et du coup ça sélectionne des gens qui savent jouer avec ça. Il y a des gens de très grande qualité, en histoire il y a des gens qui ont parfois jamais publié, on connaît des grands personnages de l'histoire qui ont fait beaucoup révolutionner telle ou telle discipline, et qui ont quasiment rien publié, hein, ou très très peu. Donc c'est une logique absurde. Tout le monde est d'accord, mais pourquoi elle continue à augmenter, à se diffuser et être de pire en pire? La question du fait qu'on peut modifier sans arrêt les publications, oui, c'est une nouveauté. C'est pas une totale nouveauté, parce que évidemment au 18e, 19e siècle, on n'avait pas numérique, bien sûr, on n'avait pas Internet. Mais on rééditait, et les rééditions sont souvent des grands changements. On voit, d'ailleurs les historiens en général aiment bien étudier ça, ça permet de voir évoluer la manière de penser d'un auteur. Il publie un truc en telle année, 5 ans plus tard, il la réédite, et on se rend compte qu'il a fait des changements. Et bien ces changements sont intéressants, parce que ça permet de voir ce qui s'est passé en 4 ou 5 ans. Bon, donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir... avoir quelque chose qui soit... parce que la discussion se fait sur quelque chose de solide, d'identifiable. Donc il faut pouvoir dire, c'est la version Intel de telle époque, parce que sinon on ne peut plus échanger entre les anciens chercheurs. Donc voilà, donc c'est la chose à encadrer. Ce problème de publication, alors le problème de publication aussi, c'est vrai que si on évalue sur cela, est-ce que nous, enfin, je crois que beaucoup de disciplines, notamment les sciences humaines, sont totalement contre les procédures de calcul de, automatique quasiment, hein, de nombre de publications dans telle revue, dans telle, des revues classées A, classées C, etc., classées B, classées C, etc. Eh bien, parce que l'évaluation qui est souvent défendue, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le monde universitaire s'est opposé à l'évaluation, c'est que c'était perçu comme justement un système où on calculerait, et c'était même prévu, il y avait des rapports qui étaient déjà prêts, on mettrait le nombre de publications A, le nombre de publications B, le nombre de publications C, qui aurait encore plus développé cette culture-là. Donc dans le monde, dans les sciences exactes, c'est difficile de ne pas faire autrement, parce que quand quelqu'un publie, c'est dans le monde scientifique dit exact, c'est plusieurs publications par an, donc c'est étudié, il y a 75 000 enseignants-chercheurs, il faut les évaluer tous les 4 ans, vous voyez le boulot que ça représente, donc la tendance aurait été obligatoirement vers l'automatisation, donc avec tout le danger. D'abord de croire que le nombre est plus important que la qualité et de pousser à ce que vous dénoncez. Bon voilà, je n'avais pas parlé tout à l'heure du projet blanc, donc je suis totalement d'accord avec les dédiés à gauche. Collègue de gauche.
Je suis.
Mon collègue de gauche.
Faut pas en déduire entre eux. Voilà.
Mais ce n'est pas la situation française. Je suis totalement d'accord, mais ce n'est pas la situation française. C'est-à-dire que ça, et on est pris dans cette logique-là. C'est-à-dire de plus en plus, on a des fonds. Si on répond à des projets européens, ANR, régionaux, enfin, toutes les demandes aujourd'hui sont très, très, très orientées, pas blanc, justement. Donc il y a de voilà, et donc ça normalise encore une fois, parce qu'on retrouve toujours les mêmes thèmes à la mode. Alors faut du développement durable, alors tout le monde demande du développement durable, voilà, donc il y a des thèmes à la mode. J'ai rien contre le développement durable, mais si vous voulez déposer un dossier en région à l'ANR, il faut qu'il y ait des thèmes, des idées comme ça.
Est-ce qu'il doit y avoir une section CNU développement durable?
Bon. Relancez pas notre débat.
Non, mais c'est la question de l'adaptation, c'est-à-dire que les appels d'offres essaient de s'adapter aux demandes de la société, d'une part, et d'autre part, les sections représentent un canal historique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ce genre de choses.
Eh bien, faites une étude des thèses qui sont présentées, des dossiers qui sont présentés, rien que de la mienne, il y a plusieurs qui tournent autour du développement durable, que ce soit du point de vue philosophique, épistémologique ou d'histoire.
Non, mais il y a les universités entières aux États-Unis où on crée des départements de développement durable, on crée des enseignements et on sélectionne sur ces critères-là.
Pourquoi pas, mais les projets, vous disiez que les projets, ce serait bien que les gens puissent faire de leur propre initiative leur thème et qu'on les laisse faire leur imagination et leur innovation. Actuellement en France, ce n'est pas le cas. C'est des peanuts, l'aspect est blanc, alors qu'aux États-Unis, c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse, je ne sais pas quel ordre aujourd'hui, puisque ça a été changé, c'est de l'ordre de 75-25, alors aux États-Unis c'est 25-75. Donc voilà, on veut bien tout remettre le CNU et la qualification au centre du problème, ou l'enseignant-chercheur, je crois que c'est un peu plus vaste que ça.
En quelques mots, et puis après on pourra...
En quelques mots, oui, ce dont on parle, ce sont des questions d'adaptation, d'accord. Vous parliez d'un phénomène de faut-il réguler ou non la recherche. Bon, j'ai répondu spontanément non pour des raisons de liberté intellectuelle, mais je comprends bien votre propos. Et ce que je veux simplement dire, c'est que la bibliométrie, c'est devenu une science en soi. Il y a des gens, il y a des instituts qui gagnent énormément d'argent avec ça pour calculer et amener tout près aux évaluateurs, quels qu'ils soient, les éléments qu'ils vont mettre dans un dossier. Ça illustre très clairement mes propos de tout à l'heure. C'est-à-dire que la façon d'évaluer, Et c'est pas, là, c'est pas comment dire, c'est dans le sens, c'est un regard qui est porté sur une activité d'une communauté. Ça conditionne les comportements et ça conditionne les modes de représentation. Vous changez le système d'évaluation, vous verrez que les chercheurs, très rapidement, s'adapteront aux nouveaux critères. Donc c'est un problème de critères à la base. Et donc c'est une question fondamentalement politique, c'est pas du tout mécanique. Ce système, s'il est là, c'est qu'on l'accepte. Voilà, donc on peut essayer de le modifier vers des critères plus qualitatifs. Je suis entièrement d'accord, voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est cette fameuse section blanche. Là encore, on parle d'adaptation, parce que si vous mettez une section blanche, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas vraiment des sections blanches aujourd'hui au CNU, mais il y a quand même des sections. Je ne sais pas, je vais prendre par exemple la section 24, aménagement du territoire. D'un seul coup, on a vu arriver, vous avez dû voir arriver, une multitude de dossiers de collègues qui sont en droit, qui ne peuvent pas être qualifiés et qui finalement fuient leur propre section de discipline pour aller dans celle-ci parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être qualifiés et faire enfin quelque chose. Donc il y a des tactiques de contournement, ça s'appelle des phénomènes d'adaptation. Et quand il y a des phénomènes d'adaptation comme ça, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème dans le dispositif. Donc je ne pense pas qu'il faille jeter le dispositif, je pense qu'il doit s'adapter. Voilà, je parle du CNU et de son organisation. Sur la qualification, vous l'avez compris, je porte fortement la position de la CPU où aujourd'hui on ne voit pas nécessairement quelle est la plus-value de la qualification, enfin par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui.
Alors, dernier mot, en un mot, si pour conclure, je pense que là pour le coup on a fait aussi le tour de la problématique, même si on pourrait en mettre des heures. S'il y avait, parce que c'est la question des verrous à débloquer, un peu de l'adaptabilité de l'enseignement supérieur de la recherche, s'il y avait un verrou vraiment en un mot, là demain, si on pouvait le débloquer, quel verrou est-ce que vous débloqueriez? Si vous en aviez la possibilité, une baguette magique, un petit peu. Peut-être dans l'ordre, simplement.
C'est qui dans l'ordre?
Alors, c'est moi.
Un élément seulement à débloquer, je pense que c'est un petit peu difficile. Moi, il y a trois points que je voudrais mettre en avant. Parce qu'on peut le faire sans. C'est un point en trois sous-points. Voilà. Vous ne pouvez pas résoudre la question de la formation, parce que ça, c'est le cœur de la question qui vous intéresse, et d'aller vers plus de réussite, enfin tout ce qu'on a pu dire. La première chose, évidemment, c'est la formation des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire au moment de la thèse, ceux qui envisagent de se destiner à l'enseignement, eh bien, il faut qu'il y ait une formation initiale à la pédagogie, et ensuite, dans son métier de tous les jours, qu'il y ait une formation continue qui prenne en compte les innovations pédagogiques. Ça me paraît essentiel, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut développer dans les universités des systèmes d'accompagnement, des dispositifs, j'en ai créé un chez moi, c'est un système qu'on appelle universitaire de pédagogie, où il y a des gens dont c'est le métier, sont des ingénieurs de haut niveau, qui vous accompagnent sur le numérique, qui vous accompagnent sur un certain nombre de choses, parce que le chercheur peut pas, et l'enseignant-chercheur ne peut pas tout savoir à tout moment. Et puis le troisième point, bon, j'ai suffisamment insisté aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation, pour aider justement à prendre en compte ces activités et les valoriser dans une carrière d'enseignant-chercheur. Si vous mettez tout ça, eh bien, je vous assure que dans 5 à 10 ans, eh bien, on aura peut-être un mode d'enseignement qui vous satisfera beaucoup plus.
Gilles Denis,
c'est difficile de répondre à cela, mais moi, j'aurais plusieurs choses. D'abord, rééquilibrer la tendance actuelle qui va à donner de plus en plus de pouvoir à l'administratif. Malgré l'autonomie des universités, qui aurait pu croire que la mainmise politique serait réduite, c'est l'inverse. Donc rééquilibrer le pouvoir de l'aspect académique national par rapport à l'aspect établissement administratif et local. Et c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je pourrais le développer. Et donc ça me paraît un point important. La question de l'évaluation me paraît extrêmement grave, extrêmement dangereuse. Là aussi, il faudrait 2 heures de discussion. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une forme de normalisation, parce que on va avoir des pairs qui vont juger d'autres collègues alors que chaque collègue, irait dans le sens contraire. Chaque collègue est responsable de son innovation. C'est le plus spécialisé dans son domaine à lui, parce que chacun d'entre nous est spécialisé pour le point de vue recherche en particulier, mais même point de vue enseignement, sur des trucs très précis. Et on va être jugé par des collègues qui vont dire non, il ne fait pas assez ceci, il ne fait pas assez cela, il devrait aller plutôt dans ce sens-là, plutôt dans ce sens-là. On pourra en débattre.
C'est pas la vision de l'évaluation que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui.
Ben oui,
mais je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Oui, mais moi je vois pas très bien ce que ça serait sinon. Par contre, ce que nous demandons à la place, c'est totalement différent. Ce qu'on demande à la place, c'est ce qu'on appelle un suivi de carrière,
et le mot est très important, qui ne serait pas obligatoire, qui serait à la demande de l'universitaire, de l'enseignant-chercheur, si l'enseignant-chercheur a besoin d'avoir le regard de collègues sur son travail, il fait appel à cela. C'est, parce que si vous voulez, ce qui est important dans le système, la science n'est pas née de rien. C'est-à-dire on peut révolutionner à chaque époque. Elle n'est pas née de rien. Elle est née aussi du fait d'une autonomie par rapport au pouvoir administratif, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir tout, même syndical, hein, tous les pouvoirs. Vous êtes, au XVIIIe siècle, vous entriez à l'Académie des sciences, pas parce que votre père était noble ou parce que vous apparteniez à telle charge, vous n'étiez pas une charge comme toutes les autres professions. Toutes les autres professions, c'était transmis héréditairement quasiment. Ça s'est construit complètement autrement. Et on en est les descendants de ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut démolir ça, le décortiquer. Donc ça veut dire qu'il faut garder l'indépendance, l'autonomie de l'enseignant-chercheur. Il doit être libre. Alors bien sûr, il va y avoir des tireurs au flanc, des gens pas très honnêtes, des gens qui passent une bonne partie du temps à la plage, je ne sais quoi, ou faire du tennis, certainement. Mais on ne va pas sacrifier ce système pour 5% ou 1% des enseignants-chercheurs. Donc par contre, qu'un enseignant-chercheur ait des difficultés, des problèmes, et qu'il demande à être aidé, et qu'il envoie son dossier, donc ça serait à sa demande, hein. Et ça ne concernerait que lui, c'est-à-dire que le dossier ne serait pas envoyé aux établissements, puisque c'est serait pour l'aider et pas pour que son dossier soit utilisé. Parce que ça, on l'a demandé, que les dossiers ne soient pas envoyés aux établissements. Et les établissements ne veulent pas, la CPU ne veut pas. Pourquoi? Au CNRS, c'est comme ça que ça fonctionne. Au CNRS, ce n'est pas envoyé à la direction du CNRS, c'est envoyé uniquement à la personne, au chercheur, uniquement. Pourquoi? Parce qu'on soupçonne fortement que ça n'ira pas à ce que l'on dit que ça va servir. Ça va servir à la modélisation des services, ça va servir à la gestion du personnel d'une manière, mais on peut dire non, d'une manière, alors à ce moment-là, accepter le fait que ça n'aille pas vers les établissements, vers les présidents et les CA et les CS des établissements. Si c'est ça, à ce moment-là, on pourra s'entendre. Mais si c'est pour aller retourner les dossiers vers les présidents d'université, vers les CA et les CS, pourquoi c'est comme ça? Si c'est pas pour une politique de gestion du personnel. Donc on ne veut pas, participer à une politique de gestion personnelle d'une manière industrielle. Nous ne sommes pas des entreprises, nous sommes l'université. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Je crois que c'est suffisant.
Si je peux me permettre, nous ne sommes effectivement pas l'entreprise, je suis le premier à le défendre, soyons très clairs, mais enfin, je ne pense pas que les universités s'orientent du tout dans la direction que vous évoquez. Hein.
Ce que je veux ajouter simplement, c'est que...
Quand même passer à la
parce que je voulais dire depuis le début, c'est que le monde universitaire, c'est comme tout monde, c'est un monde complexe, hein, sociologiquement, et qu'il y a des affrontements qui ne sont pas que scientifiques. Dans les établissements, il y a des affrontements compliqués, des affrontements politiques, des affrontements syndicaux, des affrontements de relations de toutes sortes. Hein. De ce qu'on dit, on peut laisser les établissements décider d'eux-mêmes. Oui. Dans le monde parfait du monde de je ne sais trop quoi. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça. Et donc, s'il n'y a pas une instance forte qui rééquilibre ça, qui est nationale, justement, et qui est uniquement universitaire, et uniquement, excusez-moi, scientifique, académique, eh bien, on n'empêchera pas le jeu. Moi, je pourrais donner des tas d'exemples qui montrent que le jeu local, qui ne s'abuse pas sur la science, peut être déterminant. Pour le recrutement, pour etc., etc.
Alors, assez clairement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de débats au sein de l'université.
C'est simple.
C'est probablement sain, et c'est probablement fait pour durer. Ce que, à mon avis, mon conseil pour vous, puisque c'est quand même pour vous qu'on est là aujourd'hui, et plus généralement, c'est pour vous que l'université existe. Pas uniquement pour qu'il y ait un certain nombre de querelles de structures ou d'ego ou de je ne sais quoi. Et donc, mon point de vue personnel, c'est que je trouve très sain que vous participiez à ce débat et que vous soyez là pour rappeler quels sont vos besoins. Et en plus, je pense que ça a toujours été vrai ce que je suis en train de dire. Mais à l'heure du numérique et à l'heure d'un changement aussi rapide du monde, vous êtes en moyenne plus adapté à ce changement que d'autres, parce que vous savez utiliser ce genre de choses mieux que d'autres. Et donc, à ce niveau-là, la manière dont la connaissance s'acquiert, se transmet et se crée est en train d'être réinventée. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont l'habitude de ces longs débats au sein des universités, il faut remonter à la création des universités, qui devait les financer, est-ce qu'ils étaient autonomes du roi, de l'église, etc. Ça date pas d'aujourd'hui, tous ces débats-là. Mais à l'heure du numérique, on a besoin à nouveau d'avoir ces débats, et on a besoin que vous participiez à ce débat comme vous êtes en train de le faire. Et je pense que c'est très sain que vous le fassiez, mais je pense que c'est sain que vous le fassiez avec l'ensemble des communautés étudiantes, nationales et internationales. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui a commencé à différents moments dans différents endroits, et je pense qu'il faut fédérer ces réflexions pour voir qu'est-ce qui est en train d'émerger, et il faut le faire dans un cadre où on prend en compte à la fois l'histoire, les valeurs. Il faut aussi se poser ces questions de ces valeurs. Donc les questions qu'on posait tout à l'heure sur le rôle du service public, est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas? On est un certain nombre à penser que oui, mais il y a d'autres gens qui ont d'autres visions. Donc on a vraiment besoin d'avoir la vision la plus large possible. Parce qu'autrement, effectivement, les universités n'ont pas toujours existé. Il n'est pas si évident que ça, même si ça fait partie des plus anciennes institutions dans toute l'Europe, qu'elles continuent à exister. Et donc si on veut se battre parce qu'on croit à la valeur qu'elles portent, on a besoin de penser à comment est-ce qu'on les modernise, et on a besoin de le faire de fond en comble. Et je pense que vous êtes au moins aussi bien placés qu'un certain nombre de gens qui, trop souvent, défendent des intérêts particuliers parce qu'ils appartiennent à une structure ou une autre qui a son rôle historique et qui donc demande à ce qu'elle continue à l'avoir. Voilà.
Merci beaucoup pour... Le débat, bien évidemment, il continue. Je crois qu'il est en train de continuer sur Twitter, donc on voit que c'est intéressant. L'amphi sort de l'amphi. Donc c'est évidemment un débat qu'on pourrait continuer à avoir, et je pense qu'on continuera à avoir via d'autres problématiques. Merci vraiment d'avoir peut-être allé au-delà de la politesse un petit peu bien, voilà, bien comme il faut de ce type de table ronde souvent. Là, l'idée était vraiment d'aller au cœur du débat. On n'a pas amené de grande box, mais on aurait même. Non, en tout cas, c'est très intéressant de voir justement voilà, les clivages qui peuvent exister, et puis aussi d'aller au-delà des questions. Non, c'est pas une question pour ou contre la qualification, c'est une question plus large de société et de recrutement et d'évaluation, voilà, aussi de dynamique des différentes institutions et à quel point les institutions peuvent s'adapter à un nouveau monde, aussi une nouvelle société. Donc, peut-être qu'on va construire. Je pense que le débat pourra continuer. On a d'autres points, notamment le budget général.
À voter, je suis désolé.
Non, voilà,
je vais simplement répondre. Ouais. Évidemment, moi je suis prêt à revoir la qualification, totalement ouais. La revoir, totalement la supprimer. Mais la conclusion n'est pas que je défends la qualification pour la qualification ou le CNU pour le CNU. Je dis simplement que si on veut supprimer la qualification, il faut raisonner, il faut réfléchir sur tout l'ensemble du système et tenir compte de toutes les critiques que j'ai pu faire, voilà. C'est-à-dire le rééquilibrage science, gestion et administration.
Là, je pense que c'est une idée qui est bien passée. On va pouvoir en finir et en arrêter là. Merci beaucoup encore, et puis du coup, on va pouvoir manger.